Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage ce soir, des soldats européens seront-ils bientôt déployés en Ukraine ? La question est désormais posée alors que le président américain semble s'aligner chaque jour un peu plus sur l'agenda de Vladimir Poutine. Les Européens tentent, eux, de s'organiser. Après le président Macron lundi dernier, c'est le Premier ministre britannique Keir Starmer qui prend demain la route de la Maison-Blanche pour tenter d'infléchir Donald Trump, faire en sorte que la paix en Ukraine ne se fasse pas sur le dos de Kiev, au seul profit des Russes et au mépris également de la sécurité européenne. D'où cette initiative franco-britannique d'un possible déploiement de troupes européennes en Ukraine pour garantir la sécurité du pays dans le cadre d'un accord de paix. Quelles pourraient être précisément les missions d'une telle force de paix ? L'Europe en a-t-elle les moyens ? Et plus largement, les Européens pourront-ils à l'avenir se défendre sans les Américains ? Beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes. Pour faire le point, ce soir avec nous sur RFI, Thibaut Fouillet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur scientifique de l'Institut d'études de stratégie et de défense à l'Université Lyon 3, auteur de « Géopolitique des petites puissances » paru aux éditions La Découverte. Et également en ligne avec nous, Guillaume Ancel, ancien officier, chroniqueur de guerre. Vous venez de publier « Petite leçon sur la guerre » aux éditions Autrement. Bonsoir, bienvenue à tous les deux sur RFI. Pour commencer, je vous propose d'écouter les clarifications d'Emmanuel Macron telles qu'il les a présentées lundi dernier donc à la Maison-Blanche sur l'envoi possible de troupes en Ukraine. On l'écoute.
Pour ce qui est des troupes, je veux ici clarifier les choses. On a pu par le passé, en particulier il y a un an, à des fins qui étaient à mes yeux pleinement légitimes, évoquer la possibilité d'envoi de troupes dans un contexte de guerre. C'était pour recréer de l'incertitude stratégique. Là, quand on parle de troupes, on en parle le lendemain de la négociation d'une discussion de paix durable. Et donc, une fois qu'il y a une paix solide, durable, négociée, signée par l'Ukraine et la Russie, dont nous serons collectivement les garants, la France a travaillé avec le Royaume-Uni ces dernières semaines pour dire « nous, on est prêts à contribuer ». Et donc, on a eu un plan qui a été discuté entre nos entités militaires pour dire « nous, on est prêts ». Pas d'aller sur le front, pas aller dans des territoires contestés ou occupés, mais à marquer notre soutien pour nous assurer que la paix telle que négociée et signée par les deux parties est bien préservée. Et donc, ce sont des déploiements, si je puis dire, totalement pacifiques, non engagés dans des combats, mais qui sont, si je puis dire, des déploiements de force de garantie. Elles seront, par définition, limitées, mais elles marquent une solidarité.
Et voilà pour les clarifications d'Emmanuel Macron. La presse britannique parle d'elle d'une force de 30 000 hommes. Thibaut Fouillet, qu'est-ce qu'on peut penser d'une telle initiative ? Est-ce qu'elle serait véritablement utile dans le cadre, on le rappelle, d'un accord de paix ?
Alors, je pense que le terme le plus important de ce que le président Macron a dit, c'est la garantie. On voit bien que l'objectif, d'ailleurs, a été réduit. Au début, les bruits de couloir évoquaient plusieurs centaines de milliers d'hommes pour garantir, voire même pour s'interposer. On voit bien toutes les limites qui sont posées. Les limites, c'est bien garantir. Donc, on n'est même plus dans une question de force d'interposition. C'est montrer la solidarité et l'engagement de certains États européens, en l'occurrence les Britanniques et nous, à être présents pour garantir, éventuellement intervenir, ou du moins, si la paix était violée, dire auprès des Ukrainiens, nous sommes présents. Donc je pense que l'objectif, il est là, garantir. Le volume, bien entendu, va compter. C'est pas la même chose si c'est 3000 que si c'est 30 000, mais il devient presque plus anecdotique qu'il ne l'était si c'était une force d'interposition, puisque on voit bien toutes les limites. C'est à l'arrière, une fois l'accord de paix signé, limité, pour garantir le texte. Donc en réalité, c'est plus la démonstration de force, la démonstration d'une communauté de destin que les Britanniques et les Français veulent mettre en place pour dire à l'Ukraine, même sans les Américains, on développera une garantie de sécurité. Voilà, je pense, plus de la vision symbolique et de démonstration d'engagement plutôt que de parler d'un nombre ou d'une capacité qui sera en mesure d'arrêter la Russie.
C'est un engagement quand même militaire sérieux ou simplement une façon également pour les Européens de retrouver une place dans ces négociations qui se passent surtout entre Washington et Moscou.
Alors, si on reste sur les chiffres évoqués, c'est sérieux. Et bien entendu, ça permet de retrouver une place, puisque quand on parle de la présence avancée de l'OTAN à l'Est, par exemple, c'est des bataillons de quelques milliers d'hommes ou quelques centaines d'hommes en rotation. Là, si on part sur 30 000 armés par deux pays, alors, est-ce que ce sera du 50-50? La proportion, on l'a pas, mais une rotation à 30 000, 30 000 en permanence, ça veut quand même dire un effort conséquent, puisqu'il faut ensuite pouvoir faire des rotations. Quand on a développé, déployé l'opération Sentinelle à plein effectif, on était autour de 10 000 hommes sur le territoire national et ça a eu une conséquence très forte sur le rythme des armées. Ça a un coût important, ça a un coût d'engagement. Donc 30 000, on est quand même sur un volume à rotation permanente qui n'est pas uniquement symbolique. Ça reste sérieux.
Guillaume Ancel, il y a encore beaucoup de flou hein, sur les contours de cette possible mission pour garantir la sécurité éventuellement un jour hein, dans le cadre d'un accord de paix en Ukraine ou quand ou déployer les troupes. Quelle est votre analyse de ce qu'ont présenté les Français avant-hier et demain le Premier ministre britannique Donald Trump?
En fait, il faut sortir un peu de la saturation de l'espace médiatique par Donald Trump qui nous assomme de déclarations extravagantes et qui nous mettent un petit peu sans dessus-dessous. En réalité, cette force, c'est une forme de force de renonciation. Parce que si cette force, on l'avait envoyée au moment où les Américains nous ont prévenus que la Russie allait envahir l'Ukraine, probablement qu'il n'y aurait pas eu cette guerre. Et on se souvient qu'il y a encore un an, d'ailleurs le président Macron le rappelait, quand il a évoqué le simple fait d'envoyer des soldats des pays européens dans ces pays, ça a quand même soulevé une forme d'émotion. J'ai même entendu dire « je ne veux pas aller mourir pour le Donbass ». Donc en fait, là, on renonce en réalité à une organisation différente de l'issue de ce conflit et on est tous en train d'accepter par le fait que Trump va imposer un cessez-le-feu sur le modèle de la guerre de Corée. C'est-à-dire qu'en fait, il va figer la ligne de front et va dire désormais, c'est une ligne de démarcation. Et on enverra une force uniquement pour, comme l'a rappelé Thibault, en réalité, garantir cet accord. Mais c'est absolument pas une force de peace enforcement, c'est-à-dire qui est destinée à imposer la paix, mais ce sera une force de peacekeeping, c'est-à-dire qui sera censée s'assurer qu'on respecte dans les grandes lignes l'accord.
Guillaume
L'engagement
Ancel.
Est important, mais on n'était pas du tout sur ces montants-là. Hein. En fait, l'OTAN travaille depuis décembre sur une force de plutôt 50 000 hommes, ce qui me fait dire que là, les Britanniques et les Français veulent montrer qu'ils sont en pointe sur le sujet. Mais en réalité, c'est une force qui va intégrer beaucoup de pays européens. Même la Suisse s'est proposée de participer, c'est vous dire.
Absolument. Guillaume Ancel, vous pensez réellement que 30 000 hommes au début du conflit en Ukraine auraient pu faire la différence? Je rebondis sur ce que vous venez de nous dire.
50 000. En fait, le corps de réaction rapide de l'OTAN, qui est à peu près de 50 000 hommes, mais qui ne peut pas être engagé sur une période longue, parce que c'est un corps de réaction rapide, s'il avait été engagé à ce moment-là, il est très probable que la Russie n'aurait jamais osé s'attaquer à une force européenne. Et d'ailleurs, ça doit nous interroger, parce que au moment où Trump va concéder une victoire quasi totale à Poutine, l'armée de Poutine n'a jamais été aussi faible. C'est sans doute un des seuls moments où on aurait pu renverser, déstabiliser totalement l'armée de Poutine. En Ukraine, hein, je ne parle bien sûr pas évidemment d'aller faire la guerre sur le sol russe, ce qui ne nous concernerait pas, mais en Ukraine, on avait les moyens de renverser l'armée russe. On a fait le choix de ne pas le faire, et maintenant que Donald Trump prend clairement le parti de Poutine, simplement pour pouvoir reprendre son monde du business, qui est le seul qui l'intéresse, en réalité, on est en train de constater notre échec. Que ce soit 30 000 ou 50 000, de toute façon, ça ne changera rien réellement à la facture. Il faut juste se rappeler une chose, c'est que quand on est sur une force comme ça qu'on envoie, il faut une rotation tous les 6 mois. Donc, ça veut dire que c'est un effort sur l'année. Même 30 000 hommes, ça fait 60 000 hommes. Je rappelle que l'armée britannique, l'armée terrestre aujourd'hui, elle fait 70 000 hommes. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de fournir cette facture. C'est bien une annonce symbolique qui est destiné à dire aux pays européens, bon, maintenant, il faut qu'on y aille tous, hein, parce que les 60 ou 70 000 hommes, on ne saura pas le faire à deux pays.
C'est toute la question, Thibault Fouillet. Est-ce que l'Europe a assez d'hommes, d'équipements? Est-ce qu'elle a les moyens de soutenir une telle mission de paix en Ukraine?
Alors, je m'inscris exactement dans ce qui a été dit. Ça dépend quelle Europe. C'est-à-dire que si c'est l'Europe élargie, donc l'Union européenne plus les Britanniques, hein, mais on voit que les recompositions sont pas celles-ci. C'est-à-dire, oui, on y va tous, mais il y a un choix aussi qui se structure actuellement. Il y a ceux qui sont prêts, y compris les Allemands, à, en tout cas, selon les annonces,
pas très chaud, hein.
Il faudra voir. Mais en tout cas, ils sont moins atlantistes, moins dans une logique américaine, peut-être plus dans une logique européenne. Et vous avez d'autres acteurs qui sont avec des déclarations très fortes. On ne peut pas faire sans les Américains, polonais, italiens, espagnols. Donc, ça veut dire que, oui,
l'Europe... Les Italiens préféreraient une mission internationale sous égide de l'ONU.
Oui, parce que du coup, ça veut dire international, coût partagé en termes de capacité, en termes de moyens, en termes donc de rotation, voilà. Donc en fait, c'est déporter le problème. Et donc oui, l'Union européenne plus les Britanniques en théorie, et avec tout ce qui a très bien été rappelé, toutes les limitations de la rotation de l'effectif, ça pèsera sur les budgets de défense, ça pèsera sur les structures des forces armées. Mais par contre, à 2, 3, 5 dans la durée, non. Et aujourd'hui, le problème, c'est quelle Europe ? Qui ? Est-ce que c'est 27, 28, 29 ou 3, 4, 5 ?
Et quel que soit le chiffre, voilà, de ceux qui vont s'engager dans cette mission possiblement ukrainienne, est-ce que ces Européens pourront faire sans avoir l'aide ou des garanties de Washington ?
Ils pourront faire en théorie, ils pourront faire dans un laps de temps donné, tant que ça ne pèsera pas trop ou tant que le coût sera accepté sur leurs propres forces armées. Les chiffres ont été très bien rappelés. Quand c'est 60 000 hommes, environ 100 000 hommes pour les forces terrestres françaises, si vous en déployez ne serait-ce que 10 ou 15 000 sur une longue durée, est-ce que c'est pas soutenable ? Ça veut dire qu'une grande partie de votre budget militaire part dans une garantie à l'Ukraine. Donc, en théorie, oui. Je veux dire, et la France et les Britanniques, même si c'est pour déployer 5 000, n'ont pas besoin de l'aval de Washington pour le faire. Par contre, c'est une question de soutenabilité dans la durée. Et là, bien entendu, quand le partenaire majeur théorique de l'OTAN ne participe pas, ça complexifie forcément la donne.
Est-ce que, Guillaume Ancel, les Européens en Ukraine, s'ils devaient s'y rendre à nouveau, auraient nécessairement besoin d'un soutien américain, ne serait-ce qu'en termes de renseignement ?
Alors, en réalité, oui. Et ça, c'est un point crucial que n'évoque pas Donald Trump, parce qu'en fait, il a déjà dealé sur le sujet. Il a dit dès le début des négociations qu'il n'y aura pas de « American boots on the ground ». Ça veut dire qu'il ne veut pas de soldats américains qui s'affichent sur le terrain, sur le front. C'est ce qu'a rappelé Thibault. Donc sans l'armée américaine, les Européens pourront le faire, mais ça veut dire très clairement que ça scotche la plus grande capacité de force d'intervention des pays européens, qui seront en fait phagocytés par cette opération qui coûtera fort cher, qui nous empêcherait d'intervenir ailleurs. Mais sans les Américains, on ne pourrait pas le faire en termes de renseignement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aujourd'hui que les Américains qui ont un système de capteurs de guerre électronique et de renseignement qui leur permet de regarder le théâtre et son environnement, qui savent voir ce qui arrive et ce que font les uns et les autres. Sans ce système de renseignement, les Européens seraient myopes. Et en fait, dans le deal qui a été passé, en tout cas dans la commande qui a été passée par les États-Unis, donc par Donald Trump à l'OTAN, il est bien question que ce soit bien sûr l'OTAN qui fournisse le système de coordination, même si la force sera timbrée sous un autre drapeau, mais ça n'est qu'une question d'affichage, et que le système de renseignement et de coordination sera fourni par l'OTAN, il faut comprendre, par les États-Unis, ce qui est vital pour une opération de ce type.
Et quoi qu'il arrive, Thibault Fouillet, ça serait une mission périlleuse face à la Russie. On ne peut pas écarter la tentation des Russes de tester à un moment ou à un autre la détermination des forces qui seront présentes sur le sol ukrainien.
Oui, bien sûr, puisque un engagement de force, ça veut dire une présence. Alors, est-ce que ça implique, bon, dans l'échelle de la dialectique stratégique ? Donc, bien entendu, quand on pense à ça, on pense monter jusqu'à l'escalade nucléaire. C'est pas forcément ça. Mais forcément, il n'y aura plus la distance stratégique qui permet de dire, bon, bah, c'est pas notre sol, donc on aide, on peut réfléchir à. C'est sûr que si on a des forces qui sont censées garantir, qui sont prises à partie, ou alors qui doivent garantir, et qui ne permettent pas cette garantie de sécurité, soit on acceptera de ne pas garantir de se retirer avec le discrédit stratégique international que ça implique, soit on accepte d'agir en prenant le risque d'une confrontation. Donc forcément, là, il n'y aura plus cette distance où on peut regarder et choisir de aider ou ne pas aider sans être directement impliqué.
Les Européens qui doivent se préparer à une possible confrontation avec la Russie sans le parapluie américain. Et cette prise de conscience brutale, hein, même l'Allemagne est aujourd'hui prête au divorce avec l'ami américain. Après 80 ans d'atlantisme, le nouveau chancelier, le futur chancelier Friedrich Merz appelle l'Europe à bâtir sa propre défense. C'est une véritable révolution, Thibaut Fouillet.
Oui, c'est une révolution, oui, puisque la question de l'Europe de la défense ou de l'autonomie stratégique européenne a très souvent été portée, alors avec plus ou moins de mauvaise ou de bonne foi, mais a trop souvent été portée seulement par la France, avec un blocage allemand et pas seulement, hein, allemand ou polonais ou autre, pour dire en fait, bah non, le partenaire principal, ça reste l'OTAN, et la défense européenne est inscrite dans la garantie de l'OTAN. Donc là, on est sur une évolution très nette, donc au moins une évolution de posture. Après, comme toujours, il faudra voir ce que ça implique, à quel niveau l'engagement, et si ça débloque surtout des partenariats européens, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau de la coopération ou des forces. Parce que parler d'autonomie stratégique européenne ou de forces européennes, il va falloir les matérialiser et investir dedans.
Alors, l'autre grande conséquence du revirement américain en faveur de Moscou, c'est même la Grande-Bretagne. Hein. On l'évoquait en début d'émission, qui est prête à relancer l'entente cordiale avec la France, après elle aussi l'abandon de son allié privilégié américain. Est-ce qu'on peut remercier Donald Trump d'avoir ainsi réuni tout le continent européen, les 27 et les Britanniques, Guillaume Ancel?
On peut se demander si en fait Trump, par ses agissements absolument hallucinants, ne nous fait pas du bien. Moi, je le pense parce que les Européens ont vécu pendant des décennies dans l'illusion que la guerre ne les concernait plus. Et là, ils sont obligés, avec la guerre en Ukraine et plus encore, avec le revirement de Donald Trump, de réaliser que le plus grand espace de prospérité du monde, c'est-à-dire l'Union européenne, n'est en fait qu'un club de commerçants. Et que sans sécurité, sans armée européenne, eh bien, elle ne sait pas assurer sa propre sérénité, sa propre sécurité. Et que par conséquent, elle ne peut plus le concéder à un autre, surtout quand on voit que l'assureur, les États-Unis, peut être totalement peu fiable. Et par conséquent, je dirais qu'on n'a plus le choix. Mais derrière l'armée européenne se pose la question non pas des capacités militaires, parce que quand on rassemble les 27 budgets aujourd'hui de l'Union européenne, on est déjà à plus de 3 fois le budget de la défense de la Russie. Ce n'est pas un problème de moyens, ce n'est pas un problème de dépenser plus, c'est de le faire tout à fait différemment avec une armée qui n'a qu'un seul système de commandement, de formation, d'équipement, d'entraînement. Imaginons 2 secondes ce que serait l'armée américaine s'il y avait 50 armées, puisqu'il y a 50 États aux États-Unis. Que si l'armée texane n'était pas équipée de la même manière que l'armée de Floride, ça n'aurait aucun sens. Donc notre sujet, ce n'est pas les armées, en réalité, c'est le pouvoir politique. Est-ce qu'on fait une forme institutionnelle politique européenne qui est l'équivalent des États-Unis d'Amérique, avec un président élu et qui décide et qui est le chef des armées, ou est-ce qu'on reste sur notre club de commerçants qui nous arrange l'Union européenne en se faisant croire que c'est eux qui vont diriger une armée alors qu'ils n'en ont absolument pas les moyens et qu'ils n'ont jamais été conçus pour ça?
Justement, dans le sort qui sera réservé à la future défense européenne, est-ce que cette relance de l'entente cordiale France-Grande-Bretagne, toutes deux puissances nucléaires en Europe, c'est aussi une nouvelle donne?
Oui, alors c'est une nouvelle donne. La logique veut que c'était quand même les. Alors même malgré le Brexit, depuis l'accord de Lancaster House en 2010, de toute façon, les Britanniques sont un partenaire. Et sont restés un partenaire stratégique et militaire. La problématique des Britanniques, c'est que, en effet, c'est très bien été dit, c'est une question politique. Aujourd'hui, l'acteur majeur qui serait stratégiquement avec les Français, il est hors Union européenne. Donc politiquement, ça pose un gros problème. La sécurité de l'Europe, Union européenne, elle se ferait par un acteur qui n'est plus dans l'Union européenne.
Donc on assiste vraiment à un bouleversement qui va peut-être pousser les Européens à aller enfin au bout de cette défense autonome. Merci beaucoup Thibaut Fouillet, directeur scientifique de l'Institut d'études et de stratégie à l'Université Lyon 3, auteur de Géopolitique des petites puissances aux éditions Les Découvertes. Merci également à Guillaume Ancel qui vient de publier Petites leçons